16% à 3701 points. C'est Antoine Verlin, la Bourse de Paris pour France Inter.
La Bourse en temps réel, tous les cours, les indices et les marchés, sur votre Minitel 3615 France Inter, rubrique Bourse, 35 centimes d'euros la minute. Ou sur votre téléphone au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute.
On termine avec la combinaison gagnante du Quintet Plus qui vient de se courir à Cagneux-sur-Mer. 8, 6, 14, 7 et 18. 8, 6, 14, 16 et 7, pardon, et 18. Je vous rappelle que le 3 était non partant. Vous écoutez France Inter, il est 14h03. C'est l'heure de 2000 ans d'histoire avec Patrice Gélinet. Bonjour Patrice. Je m'inquiète un peu parce que vous êtes tout seul.
Eh oui, Claire, ça nous arrive. Ça nous arrive rarement, mais notre invité étant souffrant, ben nous reportons exceptionnellement de quelques jours notre sujet qui était prévu sur le Congo belge. Et nous vous proposons une nouvelle diffusion d'une émission sur un des plus grands sculpteurs de l'histoire, Auguste Rodin.
Quand pour la première fois je vis de la terre glaise, il me sembla que je montais au ciel. Rodin.
Ans d'histoire. Parce qu'il travaillait, disait-il, sur des sentiments plus que sur du marbre ou du bronze, Rodin a signé les sculptures les plus belles et les plus émouvantes de son temps. Aujourd'hui encore, tous les amoureux du monde se reconnaissent dans les deux corps enlacés de son célèbre baiser. Et si la détresse de ces bourgeois de Calais nous émeut 7 siècles après leur mort, c'est parce que Rodin, mieux qu'un autre, savait faire vivre les matériaux les plus inertes et les plus durs, au point qu'on ne serait pas surpris de voir un jour son penseur parler, et qu'on en sait plus sur Victor Hugo ou Balzac en regardant leurs statues sculptées par Rodin qu'en lisant l'ensemble de leurs livres. Si bien qu'on se demande encore pourquoi, il y a un siècle, celui qui fut le plus grand sculpteur de son époque fut aussi le plus critiqué. Écoutez ce témoin du scandale provoqué en 1899 par la présentation de la statue de Balzac au président de la République, Georges Lecomte.
En 1899, deux œuvres de Rodin devaient figurer au Salon de la Nationale. Le baiser, que tout le monde admire aujourd'hui, et la statue de Balzac. Or, cette œuvre avait déjà sa réputation. C'était un objet de scandale. D'après les uns, elle évoquait tout bonnement un pingouin. Pour d'autres, c'était un sac de charbon ou un menhir. Et certains affirmaient encore que Rodin avait représenté un Balzac tout nu. Bref, le protocole avait alerté le président Félix Faure, qui devait inaugurer le salon, en lui suggérant d'ignorer cette œuvre. En passant devant le Balzac, le président Félix Faure a feint très ostensiblement de ne pas la voir. Et il a fait compliment à Rodin de son groupe Le Baiser. Nous fûmes quelques-uns à nous indigner et de la campagne préalable et du procédé. Et nous nous sommes jurés de n'abandonner la lutte que lorsque le Balzac de Rodin se dresserait dans Paris.
Hélène Pinet, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes chargée des collections de photographies au musée Rodin de Paris. Ce scandale, là, on vient de l'entendre il y a déjà un peu plus d'un siècle. C'est assez étonnant pour un sculpteur aussi reconnu aujourd'hui, considéré même comme classique, qu'il ait pu à ce point choquer ses contemporains.
En fait, c'était une commande donc de la Société des gens de lettres et qui avait suivi tout le parcours, toutes les recherches de Rodin et qui déjà en cours de route, en voyant effectivement le Georges Lecomte parle d'un Balzac nu, et il avait fait un Balzac nu, il avait été très choqué. Donc il y avait déjà des rapports très tendus entre la Société et Rodin, et quand Rodin présente ce menhir dans cette robe de chambre, les gens ont été sidérés qu'on puisse représenter l'homme de lettres si connu.
Alors on y reviendra à ce scandale, hein, parce que c'est plutôt à la fin de son existence. Je voudrais qu'on revienne avec vous, Hélène Pinet, sur le personnage de Rodin. Vous avez écrit d'ailleurs sur lui plusieurs livres, dont un Rodin, Les mains du génie, qui a été publié chez Gallimard Découverte. Et là on découvre un homme qui n'était absolument pas a priori prédestiné à devenir sculpteur. Il naît en 1840 à Paris, d'un père inspecteur de police, et lui-même jusqu'à 14 ans, je crois, vous dites-vous, savait à peine lire et compter.
En fait, il était myope, et on s'en aperçoit bien plus tard, donc il fait des études K1. Et c'est tout à fait par hasard qu'il décide effectivement de s'inscrire à la petite école pour suivre des cours de dessin.
La petite école, il faut rappeler, c'était l'école impériale de dessin, qui est actuellement les arts déco. Donc voilà, c'est pas les beaux-arts.
Non, c'est pas les beaux-arts. Non, c'est l'école qui préparait aux beaux-arts. Enfin, pour les meilleurs d'entre eux. Parce que c'est déjà tout un parcours. Et donc, il s'inscrit pour des cours de dessin. Et c'est là, tout à fait par hasard, qu'ils montent dans les étages supérieurs. Enfin, c'est lui qui leur raconte et qui découvre les ateliers de modelage. Et tout d'un coup, il dit, voilà, c'est ça, c'est exactement ce que je veux faire. Ouais. Donc, il va suivre tous ses cours.
Alors, il va quand même se présenter aux Beaux-Arts. Il va être recalé 3 fois. C'est quand même extraordinaire. Oui, Rodin, oui. Recalé aux Beaux-Arts à 3 reprises.
Et en fait, c'est parce que la petite école, il avait une formation plus sur l'esthétique du 18e siècle, enfin, qu'il aimera tant. Et qui ne correspondait absolument pas au goût de l'époque. Et il aurait pu se représenter, je pense, 10 fois, ça aurait été pareil. Mmh. Mais enfin, au bout de 3 fois, il est obligé d'arrêter, de vivre, donc de travailler pour d'autres.
Alors, autre chose qui aurait pu contrarier sa carrière, Hélène Pinet, c'est que sa sœur, il y a un drame qui se produit en 1862, il a donc 22 ans, sa sœur qu'il adorait, Maria, meurt à la suite d'un chagrin d'amour, elle était partie novice dans un couvent, et lui-même a failli se faire moine.
Voilà, lui-même est rentré au couvent, où il reste à peu près une année, là, le père est mort, qui était le père du couvent, lui, enfin, s'aperçoit tout de suite qu'il n'est pas du tout fait pour ça, et donc, après qu'il ait fait son buste,
il vaut mieux retourner
à la sculpture.
Alors, la sculpture, on voit dans votre livre, d'ailleurs, le premier portrait, le premier buste, pardon, de Rodin, c'était un buste de son père, je crois, où il y a un talent extraordinaire. Cela dit, il a, si je puis dire, ramé, ça a été pour lui la galère pendant des années. Il écrit, j'ai eu jusqu'à 50 ans tous les ennuis de la pauvreté. Alors, il travaillait, comme beaucoup de sculpteurs, pour d'autres, les sculpteurs commençaient toujours leur carrière en travaillant dans les ateliers des autres. Oui. Et ils travaillaient, je crois, pour un certain Carrier-Belleuse, qu'on a un peu oublié aujourd'hui, mais qui était un grand sculpteur à l'époque.
Mais qui était même le sculpteur le plus en vogue de cette époque. Et on dit qu'il sortait chaque jour ses ateliers, plusieurs dizaines de sculptures, modelées donc par tous les praticiens qui travaillaient pour lui. Et Rodin, ayant échoué à l'école des Beaux-Arts, qui était la voie royale, doit travailler pendant de très nombreuses années pour d'autres artistes qui signeront à sa place, et notamment pour Carrier-Belleuse.
Alors Carrier-Belleuse, il faut quand même le rappeler, qui a reçu pas mal de commandes officielles du Second Empire, hein. Notamment, je crois qu'il a fait les torchères du grand escalier de l'Opéra de Paris, qui était un des grands travaux du Second Empire. Et puis, petit à petit, Rodin lui-même, à partir de 1880, je crois, commence à recevoir des commandes, et notamment la commande d'une œuvre qui n'a jamais été achevée, littéralement, mais qui a été peut-être la plus importante de sa vie, c'était Les Portes de l'Enfer. C'est ça, Hélène Pinet.
Oui, alors c'est tout à fait par hasard qu'il reçoit cette commande en 1880, mais il a déjà 40 ans, il vit encore très très modestement. Et en fait, c'est presque pour des règlements de compte politique, on choisit un artiste totalement inconnu, on le sort du chapeau et on l'impose. Et à ce moment-là, Rodin, bien sûr, saisit sa chance et décide de faire cette Porte de l'Enfer. C'est lui, on ne sait pas très bien qui choisit le thème, il décide de faire donc une grande porte pour le futur musée des arts décoratifs, sur lequel il fera non pas des grandes figures, mais des toutes petites figurines pour ne plus être accusé de moulage sur nature, comme ça avait été le cas quand il avait présenté son âge des reins.
Ce musée, d'ailleurs, ne verra lui-même jamais le jour, parce que, tout simplement, on l'a remplacé par ce qui a été la gare d'Orsay, redevenu ensuite un musée. En tout cas, Hélène Pinet, à partir de ce moment-là, les commandes affluent, et puis du même coup, Rodin peut avoir son atelier. On écoute un extrait du film de Bruno Nuitaine, Camille Claudel, avec Gérard Depardieu dans le rôle de Rodin.
Pour la Porte de l'Enfer, par exemple, j'ai fait 3 ans de retard à cause de tous ces clowns. Et les bourgeois de Calais, vous connaissez? Est-ce que quelqu'un peut me la raconter, l'histoire des bourgeois de Calais? Victor Hugo, encore, je peux me débrouiller. Il m'a laissé faire sa tête, lui, ou plutôt, il faisait la tête. Il devait courir de son bureau à ma sellette avant d'oublier ce que je venais de voir. Et Balzac. Balzac, je le tiens. Comment arriver à extraire la cervelle d'un homme et la lui appliquer sur le visage? Alors si je ne veux pas recevoir une bordée de tous ces bureaucrates, j'ai besoin d'un sérieux coup de main. Plus question d'être seul. Il me faut des artistes qualifiés, pas n'importe lesquels, des talents. Et vite, plus une seconde à perdre. Alors voilà. Je veux Camille à Paris.
Alors Camille, c'est Camille Claudel, on y reviendra, Hélène Pinet, mais c'est vrai que à partir de ce moment-là, des années 1880, l'atelier de Rodin, c'est une véritable usine, hein, avec des tas de corps de métier, comme ça se passe d'ailleurs dans tous les grands ateliers de l'époque.
Mais oui, le sculpteur du 19e n'est pas un tailleur de marbre, c'est un modeleur, c'est-à-dire qu'il fait tous les travaux, c'est-à-dire ensuite il modèle, il moule en plâtre, il taille le marbre quand il n'a pas d'argent. À partir du moment où il y a du succès, il ne peut pas faire toutes les tâches, il doit engager une multitude de personnes dans son atelier. Mmh. Effectivement, l'atelier d'un sculpteur en vogue au 19e siècle, une véritable petite industrie où se trouvent donc les mouleurs qui moulent les sculptures, les praticiens qui l'aident à tailler le marbre, les agrandisseurs. Vous rajoutez les élèves.
Les agrandisseurs
agrandissent, parce qu'à ce moment-là, il y a Achille Colas qui avait créé une machine pour
Donc à partir d'une petite sculpture, voilà. on en fait une grande.
Et oui, les gens sont toujours surpris parce qu'ils pensent que, par exemple, le penseur ou où le Balzac ont été tout de suite modés dans ce format-là, mais c'était très difficile. Ça faisait des grandes machines de terre, donc souvent c'est des tailles beaucoup plus petites qui sont agrandies par la suite.
Oui. Et même le metteur au point, dites-vous.
Oui, c'est ce qui.
C'est
celui qui travaille le marbre et qui reporte effectivement les mesures sur le bloc de marbre. Et puis après, qui polie.
Et puis les fondeurs aussi.
Alors les fondeurs, bronze. Oui. Alors ça quitte l'atelier pour aller dans un atelier de fond, parce que ça demande de. Mais c'est tout un parcours effectivement, et ça fait une multitude de personnages qui hantent l'atelier en même temps que les visites, les élèves.
Alors c'est une usine, c'est aussi une pépinière de très grands artistes, parce que Rodin savait s'entourer. Il y avait Camille Claudel, on en parlera dans une seconde, mais il y avait aussi Mayol, il y avait Bourdel, il y avait Pompon, qui étaient de grands sculpteurs du début du XXe aussi.
Mais vous savez, tous ces gens-là ont eu le même parcours que Rodin. Lui avait travaillé pour Caribellus, qui signait ses sculptures, et lui, une fois qu'il est connu, engage pour l'aider des artistes et des gens de talent qui travaillent pour lui, qui après, effectivement, arrivent à se faire un nom tout seul, mais c'est pas la règle générale. Énormément de gens travaillent dans les ateliers, et ils restent le restant de leur jour.
Et puis alors Camille Claudel, évidemment, ça c'était la grande affaire, le grand amour de Rodin, qui avait quand même une femme. Il s'est jamais marié d'ailleurs. C'était une compagne qu'il avait rencontrée du temps des Vaches Maigres. Hein, c'est Rose Beret qui était couturière, je crois, et qui n'épousera d'ailleurs que juste avant sa mort. Mais il y a eu Camille Claudel, alors qui était à la fois un modèle, une assistante, je sais pas comment on dit de Rodin. À quoi servait-elle?
Elle a d'abord été élève, puisqu'en fait c'est à ce titre que Rodin la rencontre, parce qu'il doit remplacer un professeur Boucher qui part et qui lui demande de prendre ses cours. Et elle vient travailler dans l'atelier en tant qu'élève, praticien, enfin elle aide comme beaucoup de gens à cette époque, et Rodin est sous le charme de cette jeune fille. Et en plus d'avoir quelqu'un avec qui il puisse échanger au point de vue artistique, c'est tout à fait nouveau pour lui d'avoir une égale auprès de lui.
Puis échanger aussi parfois quelques mots violents avec
de très fort caractère.
Mais écoutez, on écoute tout de suite encore un extrait du film de Bruno Nuitaine.
Camille, je suis sculpteur professionnel reconnu, je te soutiens. Je sais que tu peux te vanter d'avoir contre toi.
Qu'est-ce que tu veux dire professionnel? Ça veut dire quoi? Ça veut dire diriger 3 ateliers à la fois pour cumuler les commandes? Ça veut dire jouer le jeu social au lieu de mettre la main à la pâte parce que tes ouvriers, tu les colles au travail, mais tu mets seulement la touche finale à tes marbres? Et moi, en tant qu'artiste, tu t'étonnes que je refuse ce système?
Arrête,
tu t'étonnes? Mademoiselle Claudel, l'élève de Rodin, Mademoiselle Claudel fait du Rodin, Mademoiselle Claudel ramasse les miettes du maître pour les fourrer ensuite dans ta sculpture. Et c'est ça que tu as laissé faire, c'est ça que tu as laissé dire. Mais tu m'as tout volé! Tout! Ma jeunesse, mon travail, tout!
C'était Isabelle Adjani, pardon, dans le rôle de Camille Claudel. Alors, c'était un couple, il y avait des orages entre eux, ils se sont séparés, ils se sont rencontrés en 1883, se séparent en 1893. Mais c'est vrai qu'on a toujours pensé que Rodin avait en quelque sorte fait de l'ombre à Camille Claudel et qu'il l'exploitait même.
Mais écoutez, Rodin a 43 ans quand il la rencontre, elle est beaucoup plus jeune, elle a environ 18 ans, donc lui a déjà quand même une longue carrière derrière lui. Et effectivement, de toute façon, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ce sont deux très forts caractères. C'était absolument impossible qu'ils continuent à travailler ensemble dans un même atelier. On peut imaginer, je trouve que le film a parfois fait de Camille, bon, là c'est différent, quelqu'un d'un peu insipide, mais alors que c'était un
Très forte
personnalité.
Isabelle,
oui, mais elle fait un côté un peu midinette, que je pense n'avait absolument pas Camille Claudel, qui était un sculpteur à part entière et qui entendait trouver sa place. Effectivement, c'était pas facile à côté de Rodin, mais
la sœur de Paul Claudel, il faut le rappeler quand même, c'est assez extraordinaire. Mais alors, c'est vrai que vous le dites dans votre livre, il l'a plutôt encouragé, il l'a plutôt mise sur un piédestal, si je puis dire. Je lui ai montré où trouver de l'or, mais l'or qu'elle trouve est bien d'elle, disait Rodin.
Et il l'a constamment soutenue. On a des tas de petits papiers dans les archives où on voit qu'il demandait à ses amis d'acheter des œuvres à Camille Claudel sans lui dire, qu'il lui donnait de l'argent par des intermédiaires. Enfin, on a souvent fait de Rodin quelqu'un qui un peu injuste, alors qu'en fait, de façon très discrète d'ailleurs, il a toujours aidé.
Alors il se sépare en tout cas en 1893, elle sera d'ailleurs internée plus tard, 20 ans plus tard, en 1913, et mourra en 1943 dans un asile sans avoir rien sculpté après 1913.
Thank you.
France Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui Auguste Rodin.
Et c'était Parade de Maurice Ravel, composé en 1896. Ravel qui était un peu un révolutionnaire comme Rodin, Hélène Pinet. Qu'est-ce qui fait l'originalité de Rodin au milieu des autres sculpteurs de son temps, selon vous?
Je crois qu'il est un sculpteur du 19e siècle, par bien des côtés, mais aussi il annonce beaucoup de choses du 20e siècle, notamment par sa technique de l'assemblage, qui va...
C'est-à-dire?
Vous savez, il modelait énormément, ensuite il moulait ses sculptures en très grand nombre d'exemplaires, et il avait des réservoirs de formes et d'abattis, comme l'on dit. Il assemblait des morceaux de corps ensemble pour créer des sculptures nouvelles. Donc c'était un jeu à l'infini qu'il pouvait faire, et là je pense que par cette façon de faire, il annonce véritablement le...
Il y avait le côté charnel aussi qui était assez extraordinaire. Quand on voit n'importe quelle statue de Rodin, on disait que c'était le poète de la chair.
Oui, un côté extrêmement sensuel qui ressort. Enfin, de toute façon, la plupart de ses sculptures sont des corps nus, et de ses dessins aussi sont des femmes nues. Donc on sent qu'il aimait beaucoup ce côté modelage de la terre, d'où sortaient tous ces mouvements très étranges, parfois avec des poses étonnantes et pleines de vie.
Vous avez compris la tête et le cou, mais vous n'avez pas traité le corps. Le corps humain est un monde qui remue, qui palpite, c'est la vie. Lorsque vous modelez, ne pensez jamais en surface, mais en relief. D'ailleurs, si vous voulez trouver le port de tête de mon Adam...
Pas
voyez,
du tout, non, pas du tout.
Je peux voir votre modèle? D'accord, au moins ce n'est pas un de ces modèles professionnels, ils sont trop mous, trop avachis. Venez voir. Il faut chercher dans le cou. Faut forcer sur les muscles. Là.
Attention, vous allez lui faire mal.
Voilà. Vous ménagez trop votre modèle. Vous avez l'audace nécessaire de vouloir sculpter un homme nu, mais vous le mettez dans une pose confortable et vous cachez son corps.
Les modèles, Hélène Pinet, pour lui c'était indispensable. Les sculpteurs n'avaient pas forcément des modèles d'ailleurs.
Non, parce qu'il faut, d'abord les modèles coûtent cher, donc c'est à partir du moment où ils ont un peu d'argent qu'ils peuvent avoir des modèles. Et ensuite, Rodin a quand même beaucoup utilisé les modèles professionnels, même si on lui fait dire le contraire. Mais il était toujours à la recherche d'une pose naturelle et de physique très particulier. Alors effectivement, on leur demandait souvent des poses. Quand on voit les sculptures, c'est des poses intenables. Donc on ne peut pas imaginer même qu'un modèle ait tenu la pose. Mais ce qu'il leur demandait surtout, c'était d'évoluer dans l'atelier. Et à ce moment-là, il saisissait un mouvement qui lui plaisait et qu'il dessinait très vite au crayon sur ses...
Mais parce que cela dit, les quelques-unes des très grandes sculptures de Rodin se sont faites sans modèle. Je crois que Victor Hugo n'était pas présent dans l'atelier. Comment est-ce qu'il a fait?
Victor Hugo a refusé de poser parce qu'il avait déjà posé pour beaucoup d'artistes. Donc il accepte, il tolère que Rodin vienne chez lui. Et Rodin donc installe une sellette dans la véranda et au cours des repas, il griffonne sur un petit bout de papier et quand il se lève, il en profite pour faire des dessins du crâne de Victor Hugo. Puis vite, effectivement, il va modeler sa terre. On a des photographies où on le voit. Parce que Victor Hugo, effectivement, refusait. Il y a eu une incompréhension totale entre les deux. Enfin, une non-coopération.
Pourtant, deux hommes qui devaient se ressembler, quand même. Non,
oui, mais Rodin était beaucoup plus jeune. Tout à fait, pas méconnu, mais très peu connu à l'époque. Donc, c'est un ami journaliste qui avait suggéré à Rodin de faire le portrait d'un homme connu pour lui-même... bénéficier d'un petit peu de reconnaissance.
Alors d'où le portrait aussi de Balzac. Celui-là, il n'a pas pu évidemment l'avoir comme modèle. Balzac est mort en 1850. Cela dit, il a fait une enquête extraordinaire pour pouvoir justement sculpter Balzac.
Et c'est-à-dire quand Rodin n'avait pas de modèle, il recherchait toujours des physiques qui puissent ressembler au modèle qu'il devait, enfin au personnage qu'il devait représenter. Alors il avait fait la même chose avec les bourgeois de Calais et avec Balzac. Bien sûr, il va d'abord lire énormément de choses, regarder tous les portraits qui ont été faits de Balzac.
Il a été chercher sa main, le moulage de sa main à Bruxelles, en disant « avec cette main, je rebâtirai Balzac ». Ça, c'est extraordinaire comme formule.
Oui, ça rappelle tout le travail des archéologues actuellement qui rebâtissent un dinosaure. Enfin,
c'est tout à fait ça, oui.
Et Rodin, donc, non seulement il a recherché des objets, mais il a demandé au tailleur de Balzac de lui refaire une robe de chambre comme Balzac portait. On a la lettre du tailleur qui dit « mais je vous l'ai faite pour vous, on me l'a demandé bien souvent, mais je vous la réserve ». Et une fois qu'il a eu cette robe de chambre, il a trempé dans du plâtre pour la faire tenir et ça lui donnait, si vous voulez, une idée de l'allure que pouvait avoir l'homme de lettres.
En tout cas, une très longue enquête. On comprend d'ailleurs qu'il est mis tant de temps. Cette commande a été faite en 1891 par la Société des gens de lettres, dont Balzac était le fondateur. Elle était faite pour 1893. On ne la verra qu'en 1898. Il a mis un temps fou pour la faire.
Mais comme il s'est tellement plongé dans ses recherches qu'il n'arrivait plus, il s'est immergé totalement. Il a fait énormément d'études de Balzac nu, comme c'était la méthode classique à l'époque. Les sculpteurs modelaient d'abord les corps nus avant de les habiller. Il avait même présenté donc un Balzac nu à la Société des gens de lettres. Par la suite, donc, il va utiliser cette robe de chambre, il va le draper. Et enfin, il va batailler beaucoup, mais une fois qu'il va avoir trouvé cette idée de draper le corps, de faire disparaître le corps de l'homme de lettres dans la robe de chambre, l'idée va se faire.
Qui était nu sous la robe de chambre. Il a fait un entier d'abord nu, et il a mis la robe de chambre dessus. En tout cas, on attend pendant longtemps, effectivement, enfin que soit présentée la statue de Balzac. Ce à quoi on ne s'attendait pas, c'est le scandale que cela va provoquer en 1898, la revue de texte Stéphanie Duncan.
Oui, en avril 98, le plâtre de Balzac, Rodin vient enfin de terminer, fait scandale à l'ouverture du salon au Champ de Mars. Alors à l'extérieur, on dit que des camelots vendent des petites figurines en plâtre en forme de pingouins ou de phoques et crient à tue-tête « Demandez le Balzac de Rodin ». Alors dans la foule à l'intérieur qui se presse, un sculpteur déclare « Si Balzac revenait parmi nous, il refuserait sa statue ». Et un poète, Léon Dirks, « C'est une fumisterie sans nom, voilà 10 ans qu'elle dure ». Alors le lendemain de l'ouverture, la presse se déchaîne, c'est une vraie bataille d'Hernani. Dans Le Monde illustré, par exemple, on peut lire « À tout homme pourvu du moindre grain de bon sens, il est facile de reconnaître en ce tas de plâtre, accumulé à coups de pied, à coups de poing, monument de déraison ou d'impuissance, le fait d'un esprit en pleine déconfiture ou bien, si l'on préfère, l'acte effronté de quelques maîtres, est-ce fumisterie ?» André Perraté, dans le journal Le Correspondant, voit un affront à l'homme et à l'écrivain Balzac dans la bouche épaisse et sarcastique, je cite, « Cette tête dressée sur la fameuse robe de chambre avec une raideur si plaisante de mannequin que l'on eût dit avoir devant soi l'acteur d'un colossal guignol. » Henri Rochefort, dans L'Intransigeant, ne comprend pas comment Rodin a pu défigurer ainsi Balzac. Jamais, dit-il, on a eu l'idée d'extraire ainsi la cervelle d'un homme et de lui appliquer sur la figure. Tiens, ça ressemble au dialogue qu'on a entendu tout à l'heure.
Mais c'est assez étonnant parce que Rochefort, il a fait son buste.
Oui, mais Rochefort avait été très mécontent.
Ah oui.
Comme il arrive très très souvent, quand Rodin a fait le buste d'une personnalité, les gens ne se sont pas reconnus. Alain Noah, il trouvait que son nez, non, ce n'était pas du tout ça.
C'était pas forcément cela. Et Jean Rameau, dans Le Gaulois, encore un autre journal, propose qu'on mette cette statue mirobolante sur un piédestal pour que les siècles futurs sachent à quel degré d'aberration mentale nous étions arrivés à la fin de ce siècle-ci. Je demanderai seulement qu'on grave sur le socle de cette statue le nom des éminents confrères qui la louèrent. Ce sera leur châtiment et notre vengeance. Alors le nom du sculpteur Bourdel, qui était un praticien de Rodin, devrait y être gravé puisque ce jour-là, il s'exclame « Le Balzac ». Quelle sculpture! Il nous montre à tous la route à suivre, Rodin. Et l'écrivain Octave Mirbeau, ami et grand défenseur inconditionnel de Rodin, y voit lui le monument le plus achevé, le plus puissant, le plus pathétique qu'il ait été donné à un artiste de créer. Et quelques années plus tard, le poète allemand Rainer Maria Rilke, qui sera le secrétaire particulier de Rodin, écrira comment le sculpteur trouva son Balzac. Lentement, de forme en forme, grandit la vision de Rodin. Et enfin, il le vit. Il vit un corps large, aux pas puissamment allongés, qui perdait toute sa lourdeur dans la chute du manteau. Sur la nuque forte s'appuyait la chevelure. Et renfoncé dans les cheveux se trouvait un visage qui était dans l'ivresse de regarder, où la création écumait le visage d'un élément. C'est ainsi que Rodin a vu Balzac. La vision ne s'évanouit pas, elle se réalisa.
Extraire Hélène Pinet, ce partage de l'opinion en pro, contre ou adversaire de la statue de Balzac, on croirait que c'est l'affaire Dreyfus, qui d'ailleurs est contemporaine.
Et Rodin,
il y avait les Dreyfusards, anti-Dreyfusards, les pro-Rodin, les anti-Rodin.
Et Rodin craint qu'il y ait un amalgame, et du coup d'abord il est resté tellement d'années immergé dans cloîtré dans son atelier pour travailler à cette recherche, qu'il sort et tout d'un coup il voit ce qu'il déclenche et il a très très peur qu'il y ait un amalgame, donc avec l'affaire Dreyfus. Et du coup il se terre, si je puis dire, complètement. Il est tétanisé et il va refuser de nombreuses années de l'exposer.
Il amène la statue à Meudon.
Il amène la statue à Meudon. Il ne veut plus la prêter. Et elle sera fondue en bronze que bien plus tard.
Oui. 40, et puis elle se trouve actuellement à Paris où elle a été mise, posée 42 ans plus tard. C'est quand même un très long combat. Alors bon, il y aura encore un scandale avec le penseur de Rodin en 1904. Et puis à partir de ce moment-là, Rodin produit beaucoup moins, ne sculpte pratiquement plus. Il vit en patriarche à Meudon. Il va mourir en 1917, peu de temps après Rose Beret, d'ailleurs après sa compagne. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui de Rodin? En quoi est-ce qu'il a pu marquer aujourd'hui la sculpture contemporaine? Hélène Pinel.
Tout d'abord, quand même, après 1900, il va modeler énormément de bustes parce que comme il est célèbre, il va avoir beaucoup de commandes, donc il va être reconnu par tout le monde anglo-saxon qui va venir le voir. Ce qui reste de lui, eh bien écoutez, c'est toutes ces études de corps qui fait encore son succès. Je pense que c'est un langage universel et c'est ce qui explique que le public varié, enfin quelle que soit la civilisation et ce que les gens connaissent, ils retrouvent quelque chose dans l'art de Rodin.
Merci Hélène Pinel. Je rappelle que, et je recommande d'ailleurs, un petit livre sur Rodin que vous avez écrit chez Gallimard Découverte, ainsi que Le Baiser, un petit livre dépliant consacré à la célèbre sculpture de Rodin, également disponible chez Gallimard. Vous avez pu entendre des extraits du film Camille Claudel de Bruno Nuitaine avec Gérard Depardieu dans le rôle de Rodin et Isabelle Adjani dans celui de Camille Claudel. Vous pouvez retrouver ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33 34 centimes d'euros la minute ou nous contacter sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Pascal Baldassari, Archivina, Elsa Boublil et Christelle Rousseau. Documentation Anne Weinfeld et Virginie Bloch-Lenné, revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilac.
Une émission de Patrice Gélinet.
Je rappelle que l'émission que vous venez d'entendre date du 30 mars 2001. Quant à notre invité prévu aujourd'hui, Elikiem Mokolo, auquel nous souhaitons qu'il se rétablisse vite, eh bien, il viendra probablement nous parler du Congo belge le 5 février prochain. Le programme de la semaine prochaine, lundi, 200 ans après son rattachement aux États-Unis, quand la Louisiane était française, mardi, les Parisiens pendant la Première Guerre mondiale, mercredi, la fin de l'URSS, jeudi, qu'est-ce que le gaullisme? Enfin, vendredi, nous recevrons exceptionnellement l'abbé Pierre, 50 ans après son fameux appel de l'hiver 1954. Bonne fin de semaine à tous, à lundi prochain. Il est exactement 14h30 sur France Inter et vous êtes impatients de retrouver Chris.
Merci Patrice Gélinet.